VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le procès de 13 soldats sud-soudanais accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet 2016 à Juba s'est ouvert ce mardi devant un tribunal militaire dans la capitale de ce pays en guerre depuis 2013. Les crimes allégués ont été commis le 11 juillet 2016 dans un hôtel situé à un peu plus d'un kilomètre d'une base de l'ONU à Juba, alors que la capitale sud-soudanaise était en proie à de violents combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces fidèles aux rebelles et ex-vice-président Riek Machar. L'attaque contre cet hôtel est l'un des nombreux exemples d'atrocités commises depuis le début du conflit et a été cité en exemple dans plusieurs rapports pour illustrer l'incapacité des casques bleus à protéger les civils dans ce pays. Un de ces rapports a mené au limogeage du commandant de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS. En Guinée, la grève dans les banques ne facilite pas un bon début de Ramadan. Les employés des banques réclament notamment de meilleurs traitements et pour se faire entendre, ils ont refusé de se rendre au travail. La grève a des effets désastreux sur le panier de la ménagère.
Pendant ce mois de Ramadan, c'est difficile vraiment. Et le marché aussi, tout est cher maintenant. Les prix ont été augmentés. Le kilo de viande qui se vendait à 35 000 se vend à 40 000 actuellement. Et même le gombo qui est à 500, on le vend aujourd'hui à 2 000 francs. C'est vraiment difficile pour nous. On n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Une Guinéenne dans un marché de Conakry en Guinée. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a fait le bilan de l'accord d'Alger. Deux ans après sa signature, la CEMA estime que l'accord avance timidement malgré la mise en place des autorités intérimaires et des patrouilles mixtes. Mohamed Ould Mahmoud dénonce ici ce qui n'a pas marché.
Il y a un ministère qui a dépensé des milliards dans ces régions, mais nous, on n'en a pas. Elle ne peut pas répondre à ses besoins et l'État et les parties sont là en train de se chamailler autour d'un certain nombre de questions qui ne sont pas fondamentales. Mais il faut trouver des mécanismes pour comment répondre aux besoins des populations sur le terrain. L'accord est fait pour la population malienne dans sa globalité. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on voit que tout le débat, c'est entre les parties prenantes et à Bamako, et les gens sont là. Ils attendent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas quel est l'acteur qui les levier, est-ce que c'est.
Au Niger, le procès au fond dans l'affaire du président de la coalition des partis de l'opposition, Amadou Djibo Ali Dimax, s'est tenu lundi au tribunal de Niamey. Il est poursuivi pour proposition de complot visant à renverser le régime du président Issoufou Mahamadou. Après avoir écouté les deux parties, le juge a mis l'affaire en délibéré au 6 juin. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Amadou Djibo Ali Dimax a plaidé non coupable du fait qui lui est reproché, proposition de complot visant à renverser le régime. Malgré le rejet par le juge des exceptions qu'ils ont soulevées lors de la première audience déjà, les avocats du président de la coalition des partis politiques de l'opposition sont revenus lundi matin encore sur la nullité de la procédure pour demander la relaxe pure et simple de leur client, Maître Marc Le Bihan.
Je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure. Moi, je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer.
Le ministère public a requis 6 mois d'emprisonnement ferme et 200 000 francs CFA d'amende. La décision du juge est très attendue par l'opposition qui parle d'intimidation et de dévouement de la démocratie par le régime en place. Un rappel, c'est suite à une intervention appelant les militants de l'opposition à une mobilisation plus conséquente pour faire face au régime que le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République a été interpellé le 15 mai dernier à son domicile. Abdelrazak Idrissa Niamey pour VOA Afrique.
Le sud-est du Nigeria commémore aujourd'hui le cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra qui avait entraîné 3 ans d'une terrible guerre civile. Les magasins, les écoles et les bureaux sont restés fermés donc. Les velléités indépendantistes persistent cependant dans la région, à grande majorité Igbo, 50 années après un conflit qui avait fait plus d'un million de morts. Les appels à faire sécession du Nigeria se sont amplifiés ces dernières années, notamment après l'arrestation du chef de file du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, l'IPOB, Nnamdi Kanu, à la fin de l'année 2015. Il a été libéré à la fin du mois d'avril sous caution, mais ces 18 mois de détention ont attisé les colères et le sentiment d'exclusion des Biafrais. À Washington, il est 7h05.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président angolais José Eduardo dos Santos est rentré à Luanda lundi soir après un voyage privé de près d'un mois en Espagne qui avait alimenté de nombreuses rumeurs sur son état de santé. Le retour du chef de l'État met fin à l'incertitude autour de son état de santé. Nous étions préoccupés par le manque d'informations officielles, a déclaré aujourd'hui l'analyste politique proche de l'opposition, Agostino dos Santos. Au Kenya, les 8 candidats à l'élection présidentielle du 8 août sont connus depuis hier. La commission électorale kenyane les appelle tous à éviter des discours de haine pendant la campagne. Lionel Gaïma.
La commission électorale indépendante du Kenya a retenu 8 candidats pour la présidentielle du 8 août. En plus du président Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga, les candidatures de 3 leaders de petits partis et de 3 indépendants ont également été retenues. Pour être accepté, un candidat doit être kenyan de naissance, détenir un diplôme d'une université reconnue. Monsieur Uhuru Kenyatta se représente cette année avec son vice-président William Ruto, qui s'est adressé à des partisans à Nairobi peu avant le dépôt des dossiers. Comme vous le savez, le président Uhuru Kenyatta va déposer son dossier afin de se présenter à la présidentielle du 8 août et nous vous remercions d'être venu l'accompagner à la commission. De son côté, l'opposition a formé une coalition, la NASA, National Super Alliance. Celle-ci regroupe 5 poids lourds de la politique, dont Raila Odinga, ancien premier ministre, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidence. Il se présente avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président. Raila Odinga appelle la commission à simplement respecter la volonté du peuple. La commission doit être à même non seulement d'organiser des élections libres et transparentes, mais aussi de s'assurer que ces élections soient vraiment libres et transparentes. Les citoyens de la première économie d'Afrique de l'Est sont appelés aux urnes 10 ans après les pires violences électorales kenyanes qui avaient fait plus de 1100 morts lors de l'élection de Mwai Kibaki. Alors que la fièvre électorale monte, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a lancé une mise en garde à tous les candidats. Vous avez signé un accord de bonne conduite en tant que parti politique et en tant que candidat. Et nous, la commission, n'hésiterons pas à mener des actions si vous violez ce code de conduite. Nous voulons que ce pays soit paisible avant, pendant et après cette élection. Les élections de 2013 ont été pacifiques, mais Uhuru Kenyatta et William Ruto ont été accusés d'avoir orchestré les violences de 2007. Faute de preuves, la Cour pénale internationale a abandonné les poursuites contre les deux hommes.
Le directeur de l'Agence nationale de renseignement RDC, Caleb Mutondo, et le ministre porte-parole du gouvernement Lambert Mende sont parmi les 8 hauts responsables congolais sanctionnés par l'Union européenne. L'institution les accuse de graves violations des droits de l'homme. Abdourahmane Dia.
Cette liste publiée au journal officiel de l'UE s'ajoute à celle de 7 personnes soumises à des sanctions depuis décembre 2016. En réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union. Elles touchent, entre autres, le directeur de l'Agence nationale de renseignement, Caleb Mutondo, impliqué dans l'arrestation arbitraire d'opposants et de militants de la société civile, selon les termes même du communiqué. Parmi les responsables sanctionnés figure également le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Lambert Mende, accusé d'être responsable de la politique répressive menée envers les médias. Le ministre de l'Intérieur Ramazani Shadari est aussi concerné. Le chef de milice Kiyungu Mutanda, lui, est sanctionné pour avoir contribué à de graves violations des droits de l'homme et à des crimes de guerre tels que des exécutions de civils au Katanga. Ces nouvelles sanctions pourraient dégrader davantage les relations déjà tendues entre Bruxelles et Kinshasa.
La consommation de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde, a alerté aujourd'hui l'OMS, appelant à interdire sa promotion et à augmenter les taxes sur ses produits. À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, l'OMS a publié un rapport évaluant le coût sanitaire et économique du tabac et pour la première fois son impact environnemental. Le tabagisme représente un lourd fardeau économique pour la planète. Son coût est estimé à plus de 1400 milliards. Prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.